Bien, juste avant de commencer, vous me permettrez de remercier le professeur Romer de son invitation et de m'excuser auprès du professeur Durand de continuer le catalogue des horreurs avec un vrai catalogue cette fois-ci, découvert donc dans les Cris de Damas dont je vais vous parler. Les textes juifs anciens, pour variés qu'ils soient, laissent tout de même percevoir quelques préoccupations majeures qui traversent les époques, les régions, les milieux de rédaction et les milieux de réception. Parmi ces préoccupations figure en bonne place la manière dont les juifs et les autres peuples doivent vivre, ou plutôt devraient vivre. Un tel souci se comprend dans un double contexte, dès le VIe siècle avant notre ère au moins, des Judéens vivent en Judée avec d'autres populations plus ou moins hellénisées, et d'autres Judéens vivent hors du territoire de la Judée. En effet, des communautés juives, qu'on les nomme ainsi ou non, sont connues et reconnues comme telles par d'autres populations dès le VIe siècle avant notre ère autour de la Méditerranée et jusqu'aux rives de l'Indus, sans oublier la péninsule arabique. Depuis longtemps, la sociologie a démontré que la définition de soi dans le champ social traverse toutes les sociétés humaines. L'identité sociale peut trouver un mode d'expression dans la littérature, à condition que la population en question manie l'écriture. Toutefois, les modalités de la définition sociale et son expression varient assurément entre les différents peuples. Pour le judaïsme ancien, la confrontation au monde grec puis romain en Méditerranée se traduit par l'apprentissage de la langue grecque et ou de la langue latine parmi les lettrés juifs. Ainsi, ces derniers accèdent à la culture gréco-latine et son histoire. Souvent, cette même élite intellectuelle établit par là même un dialogue avec sa culture locale ou indigène, et plus particulièrement sa tradition d'étude des textes, tradition indissociable de leur interprétation dans le judaïsme. Une telle dialectique forge la définition de soi et des autres dans le judaïsme de l'Antiquité et du Moyen-Âge. À cet égard, les textes juifs parvenus jusqu'à nous livrent une partie de la tradition éthique propre au judaïsme ancien, une tradition où dire ce qui est soi et ce qui ne l'est pas peut prendre la forme d'exposés sur les tabous et leurs transgressions. À travers un exemple, je chercherai à expliquer les fondements de ces exposés pour qualifier différents milieux, différentes communautés juives et au final définir une conception de l'éthique dans le judaïsme ancien. Avant, il convient de faire deux remarques liminaires. La première concerne la nature des sources maniées. La diversité des sources littéraires, juridiques et archéologiques concernant le judaïsme ancien ne permet pas de généraliser ou de résumer trop rapidement une seule et unique tradition éthique concernant le judaïsme. La variété et l'évolution des communautés juives dispersées autour de la Méditerranée durant plusieurs siècles doivent toujours être gardées à l'esprit afin de nuancer les études promptes à qualifier une tradition éthique monolithique dans le judaïsme. La brièveté de ma communication m'invite à saisir quelques traits saillants seulement, mais la caractérisation de la tradition éthique juive est assurément plus complexe. La seconde remarque se situe à la suite des travaux d'Émile Durkheim pour définir les tabous, non seulement comme les interdits ou les interdictions dans une religion, mais aussi comme une désignation de la chose interdite. On en a aussi parlé tout à l'heure. Ainsi défini, le tabou se déploie selon trois dimensions, l'impureté de la chose décrite, l'interdiction de faire ou d'utiliser cette chose et la sanction que la transgression de cet interdit entraîne. Les anthropologues ont montré que cette définition du tabou résonne alors dans la société, où il prend place comme une délimitation éthique de ce qui est possible au sens moral et de ce qui ne l'est pas. Le tabou se charge alors de crainte. Les mêmes anthropologues perçoivent aussi une évolution de la peur attachée au tabou dans une société. Il arrive que les tabous soient de plus en plus transgressés, ce qui affaiblit alors la définition éthique d'une société, d'un groupe ou d'une communauté. Peut-on voir, c'est ma problématique, peut-on voir une telle évolution dans le judaïsme ancien ? Pour être plus précis, la multiplication des communautés que d'aucuns qualifient de secte au sein du judaïsme ancien est-elle concomitante avec un affaiblissement du respect des tabous préalablement instaurés ? Je propose d'étudier un exemple que je juge significatif pour répondre à cette question. Cet exemple est tiré d'un ouvrage nommé « L'écrit de Damas par les modernes ». Il s'agit d'un livre découvert en deux exemplaires dans la Guénisa de la synagogue du Vieux Caire à la fin du XIXe siècle. Les feuillets de cuir appartenant au premier exemplaire, nommé CD pour « Cairo Document », donc en l'occurrence ici CDA, sont datés du Xe siècle, et les deux feuillets du second exemplaire, CDB, datent du XIIe siècle de notre ère. Après la découverte des premiers manuscrits de Qumran en 1947 dans une grotte au nord-ouest de la mer Morte, le savant Eleazar Soukenik reconnut un lien littéraire entre l'écrit de Damas et un des premiers rouleaux justement déroulés, le manuel de discipline tel qu'on le nommait alors et qu'on nomme aujourd'hui la règle de la communauté, conformément au titre original, Serer Hayahad, écrit en hébreu à même le rouleau. Le même savant proposa le premier d'identifier les rouleaux de Qumran comme des écrits appartenant aux juifs du mouvement essénien. L'écrit de Damas devint alors un écrit essénien apparenté aux manuscrits de Qumran. La découverte en 1952 de copies de l'ouvrage dans la grotte 4 jouxtant le site de Qumran et la publication en 1962 de deux autres manuscrits provenant des grottes 5 et 6 confirmèrent l'analyse de Soukenik. L'apport des manuscrits de Qumran est fondamental pour comprendre la nature de l'écrit de Damas. Le premier exemplaire, trouvé au Caire, CDA, est d'une grande fidélité de copie avec les manuscrits palestiniens, malgré la distance et le temps qui le séparent des premières copies datées du 1er siècle avant notre ère. Les copies Kérot se révélèrent incomplètes en comparaison avec les manuscrits palestiniens. Un tiers de l'écrit avait disparu entre la version de Qumran et celle du Caire. Le prologue, l'épilogue et de nombreuses lois furent perdues à travers le temps. Les lois conservées dans les manuscrits de Qumran reprennent et complètent la jurisprudence affirmée dans l'écrit de Damas, comme nous allons le voir aussi tout à l'heure. Nous allons surtout nous attarder sur ces lois perdues dans la chaîne de transmission, mais préservées dans les manuscrits palestiniens. Ainsi, la première partie de l'écrit de Damas, qui ressemble à une longue exhortation à respecter les lois énoncées dans la seconde partie de l'ouvrage, doivent être comprises comme un appel des Esséniens à voir leur interprétation juridique de la Torah s'imposer au sein du judaïsme au tournant de notre ère, notamment face aux juifs pharisiens. Dans un style parénétique, les fidèles doivent suivre la jurisprudence essénienne, sinon ils encourent le jugement de Dieu à la fin des temps et le châtiment qui s'ensuit, c'est-à-dire la destruction et l'oubli à jamais. Dieu sauvera seulement, écrit-on, la fraction du peuple qui respecte les préceptes énoncés, c'est-à-dire les Esséniens. Ces derniers se nomment comme un reste en Israël, selon une image bien connue. D'autres images complètent cette rhétorique pour dire le projet politico-religieux des Esséniens. Ils se nomment une racine de plantation, une racine qui est appelée ensuite à essaimer dans un futur proche. Ils constituent, je cite, une maison sûre en Israël, la maison de Juda. Autant d'images pour affirmer le souhait de voir rapidement se diffuser leurs idées, leur jurisprudence, pour régir l'ensemble des Judéens. Ils en viennent à prétendre renouveler l'alliance contractée entre Yahvé et le peuple d'Israël, c'est-à-dire revenir au respect de l'alliance originellement scellée au mont Sinaï et jugée comme pervertie depuis ce temps. C'est ainsi qu'ils se nomment ceux qui sont entrés dans la nouvelle alliance. Les lois énoncées dans l'écrit de Damas sont donc l'expression même de l'essénisme. La première partie de l'ouvrage, l'exhortation, devient alors une longue introduction aux lois adoptées par les Esséniens. Ces lois sont issues d'une interprétation jugée nécessaire de la Torah, car Dieu y aurait caché un message secret, les choses cachées littéralement, nistarot en hébreu. Les fragments de Qumran montrent que l'écrit était composé aux deux tiers de lois, ou plus précisément d'interprétations esséniennes de la Torah. Le titre original du document n'est pas conservé dans les copies médiévales, mais deux manuscrits de Qumran préservent la fin de l'ouvrage. Elles semblent conserver le titre original de l'écrit de Damas, Perush HaMishpatim, littéralement la teneur exacte des lois. Ce titre indiquerait la nature même de l'ouvrage, c'est-à-dire un ensemble de lois que les Esséniens, puis l'ensemble des Israélites, devaient appliquer. Ces lois sont comprises comme, je cite, le dernier midrash de la Torah, c'est-à-dire la dernière leçon de la Torah. Le terme midrash désigne au tournant de notre ère une modalité exégétique et non encore un genre littéraire. Il s'agit ici d'une étude approfondie de la Torah, conformément au sens technique du verbe darash dans les textes de Qumran. Cette dernière leçon de la Torah n'est pas l'ultime leçon, mais la dernière version révélée aux Esséniens. Le maître de justice qui dirige les Esséniens est probablement celui qui a formulé les premières lois, les Mishpatim, et les Esséniens en attendent d'autres à la fin des temps. Cet ensemble de Mishpatim donne à voir la jurisprudence des Esséniens qu'ils s'appliquent à eux-mêmes et qu'ils souhaitent voir appliquer. L'examen de cette jurisprudence livre les tabous et les transgressions à éviter, selon les Esséniens. Je propose d'examiner la fin de la première partie de l'écrit de Damas, celle qui termine l'exhortation et qui introduit la partie législative. Malgré le caractère fragmentaire du texte, on lit dans le manuscrit 4Q270, le fragment 2, les colonnes 1 et 2, un catalogue raisonné de transgressions à ne pas commettre. Alors je ne sais pas si l'exemplier circule, si on vous l'a distribué, il est devant. J'ai pensé que ça pouvait vous être utile, au lieu de lire sur l'écran simplement, d'avoir le texte entre les mains. Donc le texte va vous parvenir. Pendant que le texte est distribué, j'ajoute que ceux qui connaissent l'écrit de Damas, notamment dans le volume des écrits intertestamentaires de la Pléiade de 1947, ne trouveront pas ce texte, puisque ça fait partie justement des fragments qui étaient inconnus ou encore non travaillés à cette époque-là. Les transgressions, vous pouvez commencer à lire à côté de moi, les transgressions sont annoncées par la formule « ou quelqu'un qui » suivi d'un verbe à l'inaccompli. La première transgression conservée interdit probablement le culte rendu au soleil et l'envoi d'offrandes à la suite d'interdictions faites dans la Torah comme dans des écrits prophétiques. Puis on lit les interdictions d'invoquer les démons à l'apparence de bouc ou chevelu selon les traductions, de communiquer avec un mort ou d'autres esprits à la suite des pratiques de devins ou de nécromanciens. Ces interdits sont déjà notés dans les livres du Lévitique, du Deutéronome et dans un écrit qui s'appelle le rouleau du Temple, conservé seulement dans la bibliothèque de Qumran. L'usage du verbe d'arache pour dire l'interrogation des défunts est délibérément opposé à la recherche du sens caché de la Torah par les Esséniens exprimé, comme je le disais tout à l'heure, avec le même verbe. Entrer en contact avec les démons, les morts ou d'autres esprits est perçu comme une entreprise concurrente de la recherche du message divin par l'étude de la Torah menée par les Esséniens. L'interdiction suivante concerne la prononciation du tétragramme pour invoquer le Dieu d'Israël, on en a aussi parlé tout à l'heure, sous peine de mort, comme il est annoncé en Lévitique 24, 16, ou justement dans l'écrit de Damas, colonne 15, ligne 3. Après une lacune de plusieurs lignes, il est question de s'assurer de la virginité, là aussi on en a parlé, hein, c'est le privilège de celui qui parle à la fin, de s'assurer de la virginité de la future épouse, dans une notice consacrée aux Esséniens, placée dans un ouvrage nommé « La guerre des Juifs », l'historien judéen Flavius Joseph explique que les Esséniens vérifiaient la pureté de la promise et ils éprouvaient ses bonnes mœurs pendant 3 mois. Deux autres interdits proscrivent les relations sexuelles avec la veuve et d'autre part avec sa propre femme lors du sabbat ou du kippour, selon les restitutions du texte, qui, vous le voyez, est très lacunaire. La dernière interdiction est inconnue dans la Bible hébraïque, mais on peut la lire dans un écrit conservé dans les communautés esséniennes, bien que rédigé avant l'émergence du mouvement, le livre des Jubilés, au chapitre 50, ligne 8. Après plusieurs lacunes, il est question des offrandes et des dîmes. L'oubli des offrandes au temple de Jérusalem est une profanation, tout comme l'oubli de l'offrande des fruits de la quatrième année pour les prêtres. L'obligation d'offrir les prémices, les premiers animaux, le rachat du premier-né des animaux impurs et du premier-né de l'homme, les premières tombes du troupeau, la valeur monétaire du rachat, sont affirmées à la suite de dispositions contenues dans la Torah. Le dispositif de la compensation est aussi envisagé pour les dîmes sacerdotales. La transgression de celle-ci est donc strictement interdite. Après cette série de transgressions, il est question des noms, peut-être ceux des anges, que les Esséniens promettaient de conserver, selon Flavius Joseph. Cependant, on ne peut exclure qu'il s'agisse des noms des Esséniens à qui l'écrit de Damas accorde une importance selon 2 passages. Un passage justement conservé dans un manuscrit de Qumran de l'écrit de Damas, 4Q266, fait état de prêtres qui abandonnent le nom de leur clan. Le respect de la filiation pourrait être affirmé en contrepoint du rejet par certains juifs de leur filiation, peut-être un écho à une préoccupation particulière contemporaine au sein du sacerdoce où la fonction est héréditaire. La transgression suivante concerne une forme de lèpre, la leucodermia, tzaraat, je crois qu'on l'a aussi évoqué hier, qui est curable selon Lévitique 13, et la gonorrhée. Comme dans la Bible hébraïque, les défauts physiques sont perçus comme des impuretés susceptibles d'entacher la communauté tout entière. Ensuite, la transmission d'un secret des Israélites aux nations est peut-être une allusion au serment que prêtent les Esséniens selon Flavius Joseph, je cite, « Ils jurent encore de ne rien cacher aux membres de la secte, comme de ne rien révéler à d'autres qu'eux. La déclaration de malédiction sur le peuple d'Israël est une transgression qui est rapprochée de la divulgation de secrets aux nations. » Ces 2 crimes sont donc sanctionnés de la pendaison au bois, selon un autre document retrouvé à Qumran, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, le rouleau du Temple. La transgression suivante, avec celui qui parlera de révolte ou qui parlera fallacieusement, selon les traductions possibles, est peut-être une allusion aux Esséniens qui se rallient aux pharisiens, car la même expression est connue à la colonne 20, ligne 11 de l'écrit de Damas, pour décrire les Esséniens renégats qui retournent auprès, je cite, de l'homme de moquerie, sobriquet désignant le chef des pharisiens. Cette interdiction se comprend aussi comme une mise en garde adressée à ceux qui interprètent fallacieusement les paroles des prophètes, les oints du Saint-Esprit, dans le texte, les Esséniens étant ceux qui voient la vérité de Dieu et qui s'opposent donc à ces fausses interprétations. Ensuite, Le sacrifice des bêtes pleines est réprouvé. Une discussion dans la Mishnah, au traité Oulim 4, lignes 4 et 5, suggère que l'abattage était pratiqué dans la société juive. Les Esséniens se distinguent probablement de la pratique pharisienne. Puis, les relations sexuelles avec la femme enceinte, avec sa nièce ou avec un autre homme sont proscrites. La condamnation des relations sexuelles oncle-nièce est spécifique aux Esséniens. Le Talmud de Babylone, au traité Yebamot, folio 62b, l'autorise. Après un espace vierge d'écriture, sur le manuscrit, il est question des sanctions pour ceux qui contreviennent à ces règles. Sans surprise, Dieu les châtiera. Puis, la raison d'être du catalogue est enfin donnée. Les Esséniens sont appelés à faire ce qui est considéré comme juste en suivant les prescriptions de la Torah et ce que Dieu révélera, c'est-à-dire ce que le texte nomme les voies de vie. Il s'agit des lois, des mishpatim, des messages secrets de Dieu cachés dans la Torah et révélés aux Esséniens. Par leur connaissance et leur application, les Esséniens éviteront les fautes, les chemins de la fosse, qui mènent donc à la mort. L'appel à l'attention des fidèles marque le début d'une nouvelle section, dont l'objectif est de faire comprendre aux adeptes les erreurs à ne pas commettre. Les fautes sont développées dans le corps de l'écrit de Damas, c'est-à-dire la longue partie suivante de ce catalogue sur les lois que les Esséniens doivent suivre. Après cet examen rapide, il faut évidemment se demander quelle est la fonction de ce type de document. À quoi sert-il ? Le catalogue des transgressions est organisé selon un formulaire qui trahit probablement un texte pouvant être mémorisé par les adeptes afin de ne pas tomber dans le péché par inadvertance ou par méconnaissance. 7 des transgressions préservées dans le catalogue sont ensuite reprises et développées dans la partie suivante de l'écrit de Damas. 2 autres transgressions sont reprises dans un autre ouvrage découvert à Qumran, dont on pense qu'il a été rédigé par les Esséniens mêmes, qui s'appelle 4QMMT, pour Mixat Maaseh HaTorah. Ce document, probablement adressé réellement ou fictivement aux autorités de Jérusalem, donne les points principaux de reproche en matière législative qui séparent les Esséniens des autres Juifs. Enfin, dans le rouleau du Temple, qui réécrit une partie des lois bibliques, on trouve aussi la sanction pour la divulgation des secrets nationaux aux étrangers. À cet égard, le catalogue des transgressions est en partie programmatique, il donne les points principaux de la jurisprudence que suivent les Esséniens, points principaux qui seront développés dans d'autres écrits ou juste après. Même s'il devait y avoir d'autres lois sur les manuscrits dans le catalogue, car le texte, vous l'avez vu, est fragmentaire, on remarque des lois reprises sans changement de la Bible hébraïque, comme par exemple la prohibition du culte rendu au soleil, la condamnation des pratiques de devins ou de nécromanciens, ou bien l'interdiction de prononcer le nom divin avec le tétragramme. Il est d'ailleurs frappant que ces lois ne soient pas reprises ensuite dans l'écrit de Damas. Elles étaient probablement perçues comme connues de tous, car écrites dans la Torah. L'exposé de ces lois, leur contenu et leurs idées directrices semblent avoir pleinement satisfait les Esséniens, qui ne semblent pas avoir jugé utile de donner une interprétation plus précise, c'est-à-dire un message divin secret nouvellement révélé pour parler selon la rhétorique essénienne. En revanche, d'autres transgressions ont donné lieu à des développements, à des mishpatim dans la suite du document, comme l'examen de la Vierge voulant se marier, les considérations sur les rapports sexuels lors du sabbat ou du kippour, l'offrande des fruits dans la quatrième année, les maladies de peau, les impuretés sexuelles, les relations sexuelles entre une nièce et son oncle. Comme ces lois sont souvent consignées sur des manuscrits incomplets, il n'était pas inenvisageable que toutes les lois dérogeant ou complétant la Bible hébraïque aient pu connaître un développement spécifique dans la seconde partie de l'écrit de Damas. Toutefois, d'autres mishpatim exposés dans cette même dernière partie ne sont pas consignés dans le catalogue des transgressions. Là encore, le caractère fragmentaire du catalogue des transgressions permet de penser que d'autres transgressions étaient inscrites au programme. Il est vraisemblable que les développements législatifs différents de la Bible hébraïque trouvaient une place dans le catalogue incomplet. Parmi les lois de la seconde partie de l'écrit de Damas, il n'est pas toujours possible de lire un développement spécifique aux Esséniens, bien qu'une introduction suivant le catalogue des transgressions dans 3 manuscrits rapporte que les lois à suivre sont extraites, je cite, de la dernière leçon de la Torah, et qu'un enseignant, maskil, doit les enseigner aux fidèles. En effet, il faut distinguer des lois façonnées, rédigées spécifiquement par les Esséniens, et les lois reprises d'autres recueils législatifs et adoptées par les Esséniens. Cette question est au cœur de la genèse du mouvement essénien et de sa pensée. L'écrit de Damas semble rédigé au milieu du IIe siècle avant de notre ère, au moment des débuts du groupe essénien. Sans entrer dans une analyse de détail, il est fort probable que des lois reprises par les Esséniens avaient déjà été formulées avant l'émergence de l'esséniisme. Ainsi, on trouve nombre de lois dans cette seconde partie de l'écrit de Damas qui ne portent aucun mot, aucune expression, aucune phrase caractéristique de la pensée essénienne. Il existe donc une histoire littéraire de ces lois placée dans un second temps dans le cadre essénien, sans modification apparente. On peut citer l'exemple des prescriptions, je cite « des prescriptions sur la terre sainte » qui introduisaient les lois agricoles sur la moisson, sur les glanages, les arbres fruitiers et les fruits de la quatrième année, les mesures et les dîmes agricoles. Même si le catalogue des transgressions considère les fruits de la quatrième année, il faut constater que ces lois agricoles ne présentent aucun trait, aucun style pouvant faire penser à une rédaction essénienne. Outre les lois de la Bible hébraïque mentionnées mais non citées, et qui ne sont pas reprises donc dans la seconde partie de l'écrit de Damas, il faut envisager que les Esséniens sélectionnent des lois rédigées probablement avant l'émergence de leur mouvement et dans lesquelles ils se reconnaissent. Les modifications textuelles ne semblent pas nécessaires dans ce cas. C'est pourquoi les Esséniens empruntent non seulement des lois à la Bible hébraïque par le rappel fait dans le catalogue des transgressions, mais ils reprennent aussi à leur compte des lois formulées hors de la Bible hébraïque. Il demeure difficile de savoir si ce phénomène correspond à une filiation des premiers Esséniens avec un groupe préexistant. L'hypothèse d'une origine essénienne avec le groupe des pieux, les Rassidim, connu seulement par trois allusions dans les deux premiers livres des Maccabées, pour séduisante qu'elle soit, cette hypothèse trouve peu d'appui littéraire en l'état des sources. Une hypothèse alternative pourrait être de reconnaître dans ces lois, sans marque essénienne, un ensemble de lois nées d'un phénomène d'interprétation de la Torah et dans lesquelles une majorité de Juifs au tournant de notre ère se reconnaissent. Ces lois ne seraient pas alors à qualifier d'esséniennes. Quelques indices révélés plus avant permettent d'entrevoir une hypothèse peut-être encore plus complexe. Si ces lois sont partagées par l'ensemble du judaïsme au tournant de notre ère, et se lisent même dans les premiers écrits du judaïsme chrétien, comme l'interdiction des relations sexuelles pour la veuve, dans cet exemple de la première épître à Timothée 5, versets 11 et 12, et également dans les premiers écrits du judaïsme rabbinique, comme la loi sur les maladies de peau dans le traité de la Mishnah Negaïm 3.1, elle demeure reprise, sélectionnée, dans la perspective des idées esséniennes. Un ensemble de lois est donc rédigé hors du mouvement essénien, probablement avant son émergence, et il est partagé par une large frange du judaïsme. Puis ces lois ont été soigneusement sélectionnées, classées, ordonnées, pour correspondre à la doctrine essénienne. En ce sens, elles deviennent esséniennes, bien que certaines d'entre elles continuent d'être observées par d'autres juifs à la même époque. Ce ne sont pas les lois seules qui définissent l'essénisme, mais le fait de les placer à la suite du catalogue des transgressions qui leur donne un sens dans un nouveau cadre législatif, celui de la pensée essénienne. Enfin, d'autres lois consignées dans la seconde partie de l'écrit de Damas sont de facture essénienne et ne sont pas partagées par les autres juifs. Par exemple, les lois sur l'inspecteur du camp, dans deux manuscrits, donne les fonctions d'un dirigeant du mouvement essénien, le Mevaker, celui qui administre un établissement essénien, celui qui examine le postulant à l'entrée dans la communauté, celui qui sanctionne aussi les membres qui dérogent à la Torah et au Mishpatim. À la suite du catalogue des transgressions et des lois suivantes, on peut donc distinguer trois types de lois qui fondent l'éthique essénienne sans pour autant se placer en contradiction avec le reste du judaïsme. Les Esséniens suivent les lois consignées dans la Torah sans exception, mais comme ils prétendent avoir accès aux messages secrets placés dans la Torah, ils adoptent ou créent d'autres lois nommées des Mishpatim. Une partie de celle-ci provient probablement d'un fond juif qui transcende les débats et querelles entre les groupes juifs à cette époque. Le choix de certaines d'entre elles, selon le critère de la conformité avec le message essénien, leur donne une identité essénienne a posteriori, bien qu'elle ne soit pas rédigée par les Esséniens. Enfin, l'autre partie des Mishpatim est rédigée par les premiers Esséniens eux-mêmes. On remarque que ces dernières lois visent souvent à régir la vie communautaire et à garantir la pureté du groupe. On peut imaginer aisément que les lois réglant la vie en commun soient rédigées par le groupe même. En revanche, certaines lois préservant la pureté de la communauté semblent aussi rédigées par les premiers Esséniens. Ils ne trouvaient probablement pas les lois existantes suffisamment à même de protéger et d'assurer la pureté du groupe. Comme les Esséniens sont en la matière des rigoristes, ils ont dû être obligés, d'amender des lois existantes ou de les rédiger de toutes pièces. J'en arrive à ma conclusion. C'est pourquoi l'écrit de Damas m'apparaît comme le manifeste des Esséniens au sein du judaïsme. À travers le catalogue des transgressions et les développements législatifs repris, sélectionnés, amendés ou créés, les Esséniens exposent la définition de leur pensée et au final de leur groupe. Selon le formulaire choisi dans le catalogue, les Esséniens se définissent par la négative en disant leurs tabous et leurs transgressions. La critique rhétorique a montré que cette manière de se définir correspond à une stratégie visant à édifier les membres et à informer, voire à convaincre d'autres personnes de les rejoindre. Il s'agit aussi d'une des caractéristiques de la définition d'une secte religieuse. Les sociologues Stark et Bainbridge insistent sur la tension du groupe avec son environnement social et religieux pour pouvoir parler de secte. Cette tension est palpable dans les modalités rhétoriques choisies par les Esséniens, même s'ils possèdent des lois en commun avec l'ensemble du judaïsme, ou au moins une large frange de celui-ci au tournant de notre ère. La découverte de l'écrit de Damas dans une synagogue du Vieux Caire, une synagogue appartenant aux Karaïtes, c'est-à-dire des Juifs qui refusent l'autorité des rabbins et la Torah orale au Moyen-Âge, signifie probablement que l'ouvrage circulait après la disparition des Esséniens, probablement au cours de la révolte juive de 66 à 74. Cette diffusion s'explique, à mon sens, par le fait que nombre de lois étaient partagées par l'ensemble des Juifs au tournant de notre ère, des lois considérées comme très anciennes, au point que les mouvements karaïtes les ont conservées. Au passage, nombre des traits spécifiques à l'essénisme survivent dans le karaïsme, notamment dans les rites festifs et dans la liturgie, comme la fameuse mention du maître de justice. L'écrit de Damas est bien le manifeste des Esséniens, car il expose le programme de l'essénisme dans le catalogue des transgressions et dans les lois qui suivent, et surtout parce qu'il les justifie dans la première partie du document, à l'aune de la doctrine professée, à la différence de 4QMMT et du rouleau du Temple. L'écrit de Damas se distingue aussi de ses deux autres ouvrages par la publicité donnée hors du mouvement essénien, comme en témoigne la reprise de l'ouvrage par les Karaïtes au Moyen-Âge. L'élaboration de l'écrit de Damas dans le cadre de la multiplication, ou du moins de l'institutionnalisation des groupes juifs autour de notre ère, ne permet pas de conclure à un affaiblissement du respect des tabous préalablement instaurés. Les Esséniens, au contraire, les reprennent, les développent, les généralisent à toute la société juive lorsqu'il s'agit, par exemple, des tabous réservés aux prêtres dans la Bible hébraïque. Dire les tabous passe même par un exposé des transgressions dans le cadre d'une rhétorique prompte à édifier les lecteurs ou les auditeurs. Ces transgressions ne sont pas envisagées dans la théorie, puisque l'écrit de Damas se termine par un long code pénal. Le manquement aux interdits se dit une iniquité, avon en hébreu, selon l'écrit de Damas 14-19. Le pardon de Dieu est possible suite à une offrande réparatrice dont on peut se demander si elle n'était pas adressée au temple de Jérusalem. Mais il n'empêche que le contrevenant a violé le droit communautaire. C'est pourquoi une sanction est prononcée conjointement à la possibilité de déposer une offrande. Le code pénal donne justement l'éventail des sanctions en fonction de la faute commise. La crainte inhérente au tabou est alors visible dans la communauté. Les textes esséniens ne trahissent pas un affaiblissement du respect du tabou, au contraire, ils développent et codifient les tabous au sens où ils les précisent, les modifient, voire les renforcent. On ne peut comprendre une codification au sens des codes de loi grecs et romains, car l'écrit de Damas ne vise pas à codifier tous les pans de la vie dans la société judéenne. Il vise à donner la vérité du message divin à travers quelques interprétations révélées. Les autres courants juifs au début de notre ère semblent avoir eu une conception assez proche. Ainsi, les différentes règles de vie personnelle et commune énoncées dans la première communauté juive du mouvement de Jésus appliquent et développent seulement le message de celui qu'ils pensent être le Messie ressuscité, sans tentative de codification. Les recueils juifs anciens de loi, que constituent la Mishnah et dans une moindre mesure la Tosefta, puis plus tardivement les Talmuds de Jérusalem et de Babylone, pour ne citer que les plus connus, apparaissent à la fois comme le résultat de nombreuses études de la Torah et comme des monuments servant à l'enseignement des Juifs. Ils ne visent pas non plus à codifier la société juive, ils donnent les points de vue des différents rabbins réputés ou d'écoles. Loin de s'affaiblir dans le judaïsme ancien, malgré la multiplication des courants juifs, il faut comprendre davantage que les tabous s'arrachent à la pensée sauvage, pour faire allusion à l'ouvrage de Lévi-Strauss, donc s'arrachent à la pensée sauvage par une étude de plus en plus précise et des interprétations de plus en plus diverses dans le judaïsme ancien. Je vous remercie.